Mars Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches entre 11h et midi sur Mars Africa, une émission qui parlera beaucoup d'actualités, de chaîne, de beach soccer, de coupe afro-asiatique, beaucoup d'événements que nous allons essayer de développer pendant ces quelques minutes. Mais en attendant, une petite escale s'impose pour avoir le maximum d'informations. C'est une synthèse de l'actualité présentée par Sarah Moujahid. Ça va très bien.
صباح النور امين تحية لك وتحية لجميع مستمعات ومستمعي راديو مارس.
الاخبار الرياضية.
اهلا بكم. تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لعلم كافة الاندية المنضوية تحت لوائها انه تقرر تاجيل مباريات كاس التميز التي كان من المقرر اجراؤها خلال الفترة الممتدة من 9 الى 17 نوفمبر الجاري لفسح المجال امام شركات صيانة الملاعب لاعادة تهيئها لاستقبال المباريات بعد فترة التوقف الدولي، وسيتم الكشف عن مواعيد هذه المباريات في وقت لاحق. تواصلت أمس مباريات الجولة 9 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسم الأول لعرفات التعادل السلبي في مباراة الرجاء الرياضي النادي المكناسي. فوز نهضة بركان على المغرب تطواني بهدفين لواحد. هزيمة شباب المحمدية بميدان أمام الاتحاد الرياضي التركي 3-0 وهدفين لصفر لصالح الدفاع الحسني الجديدي على حساب حصرية أكادير. مباريات هذه الجولة غادي تواصل اليوم على الساعة 5 الجيش الملكي النهضة تزمام، على الساعة 7 الفتح الرياضي الوداد الرياضي واتحاد طنجة في مواجهة فريق المغرب الرياضي الفاسي. طرقت أمس مباريات الجولة 5 من بطولة القسم الوطني الثاني لعرفات التعادل هدف لمثله في مباراة شباب المسيرة الرجاء بني ملال انتصار اتحاد يعقوب منصور 3-1 على راسينغ البيضاوي، والنادي القنيطري تعادل بهدفين لمثلهما من فريق شباب نكرير. مباريات الجولة غادي تواصل اليوم على الساعة 4 الكوكب المراكشي وداد فاس مولودية وجدة أولمبيك خريبكة سريع وانظمة الاتحاد الإسلامي الوجدي شباب التسخين فرا في مواجهة فريق أولمبيك الجيرة ويوسفية برشيد غادي يستقبل فريق صدر المغربي. وفي الختام حسم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا مواجهة رابعة مع الدنماركي هولجر رون المصنف 13 بجولتين لا شيء 6-3-7-6 أمس، وبلغ نهائي دورة باريس للماسترز في كرة المضرب، وينافس زفيريف للفوز بأول لقب له في الدورة منذ خسارته النهائي أمام الروسي دانيال ميدفيديف سنة 2020. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
الأخبار الرياضية.
Merci Sarah, qu'on retrouvera dans moins de 57 minutes dans l'émission Rakikiyat consacrée au football féminin. On va démarrer bien évidemment ce numéro par une première escale en Égypte au Caire. Maana l'Oustad Tariq Radouane, sabah al-khair Oustad.
صباح النور، اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا.
والبدايه بطبيعه الحال بانتصار نادي الاهلي في وسط الاسبوع امام فريق العين الاماراتي برسم ربع نهائي كاس القارات، واللي كانت كتشكل مباراه يعني ديال كاس افرو اسيويه بين فريقين عريقين. الاهلي تسيد المباراه من بدايتها الى اخرها.
صحيح طبعا كانت المباراه في اطار مباراه دور الثمانيه او دور ربع النهائي في كاس الانتر كونتيننتال، وجمعت بين الاهلي بوصف بطل دوري الابطال ونادي العين الاماراتي بطل اسيا، وانتهت بفوز الاهلي عن جداره 3-0، وكده الاهلي صعد وينتظر الفائز من باتشوكا البطل قاره امريكا الشماليه، والفائز من بطل امريكا الجنوبيه هيلتقي مع احداهما في الدور نصف النهائي، هيبقى في قطر في شهر ديسمبر القادم ان شاء الله.
يعني لاحظنا لفريق الاهلي يعني نسي هزيمته في سوبر الافريقي امام الزمالك، واستطاع يعني في اقل من اسبوعين لملمت الجراح والفوز بالسوبر المصري والتفوق في الأفرو أسيوية.
الأهلي فريق كبير بالتأكيد يعني، والزمالك فريق كبير، وفي المغرب أيضا الرجاء والوداد، وفي فرق كده الترجي النجم الساحلي الأفريقي، في أندية كده كبيرة في العالم العربي بتقدر بسرعة تقوم يعني تتجاوز الهزائم. ممكن الأمور تطول شوية، ممكن يكون موسم مش موفق، ممكن لكن في النهاية بيرجع أقوى مما كان، وده اللي التاريخ بيقوله. يعني طبعا الفرق الكبيره بيبقى لا تتاثر بمباراه او بنتيجه لقاء او حتى بضياع بطوله، ولكنها تستطيع انها تعود من جديد.
يعني التساؤل حول مستوى اللاعبين المغاربه في فريق الاهلي، يعني ثبات في مستوى يحيى عطيه الله وعلامات استفهام كبيره حول مصير رضا سليمبا.
والله شوف حضرتك، وانا شايف انه وجود اللاعبين الغابه في مصر تجربه ناجحه جدا. في السنوات الاخيره احنا شفنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المغاربه في الدوري المصري، مش مجرد يحيى عطيه الله، لا ده طبعا زي ما انت قلت حضرتك، في رضا سليم، في اشرف داري، يعني يا ربنا ان شاء الله كده يوفقه ويتعافى بنسبه 100%، وكان في الزمالك في اشرف بن شرقي، كان في كمان النادي الاهلي وليد ازارو، يعني لعيبه كتير جدا. نعم. عندنا الكارتي، وليد الكارتي في بيراميدز، عندنا شبي. محمد الشايبي في بيراميدز، لعيبه كتير جدا، واللعيبه الحقيقه كلهم معظمهم اثبت جدارته. يحيى عطية الله يعني ماشي بشكل جيد في النادي الاهلي وبيتقدم من مباراه لاخرى. رضا سليم يعني البعض قال انه كان زعل عشان طبعا يعني هو ما شاركش الفترات كبيره في الاونه الاخيره، ويعني الاهلي الحقيقه مزدحم برضو باللاعبين الاكفاء والنجوم، فالمدرب كولر بيبقى محتار يلاعب مين وما يلاعبش مين، خاصه لما يكونوا في فورمه مميزه. لكن حتى رضا سليم لو ما كانش شارك او خد الفتره بتاعته، فانا بتابعه الحقيقه من ايام لما كان في الجيش الملكي، لاعب ممتاز جدا ولاعب قدراته عاليه، واكيد هتجيله الفرصه انه يشارك ويؤكد موهبته. يعني اكيد
يعني هل استطاع يحيى عطيه الله يعني التفوق على علي معلول، خصوصا ان علي معلول السنوات الاخيره كان هو الركيزه الاساسيه في فريق الاهلي، هل استطاع ان ينسي علي معلول لدى انصار الاهلي؟
هو شوف يعني عطيه الله عنده مميزات، اول حاجه ان هو يعني سن اصغر حوالي 5 سنوات، احنا عارفين علي معلول بعد شهرين هيتم عمل 35، يحيى عطيه الله 30 تقريبا، يعني فدي يعني حاجة تخلي الفرص أفضل وتساعد في النواحي البدنية. يحيى عطية الله بيعمل مجهود هجومي ودفاعي، وعلي معلول برضو كان بيعمل مجهود هجومي ودفاعي، الاتنين ممكن قادرين على التهديف، عنده ده قدرات تهديفية وده عنده قدرات تهديفية، النواحي البدنية للاتنين لعيبة كويسين، فما نقدرش نقول انه علي معلول وحش او لا، هو كل فتره سنيه او كل لاعب ما بيتقدم بيه السن طبيعي انه مردوده بيقل، خاصه اذا زادت اصاباته، فعلي معلول قدم الكثير للاهلي ولاعب مميز، وعطية الله ما زالت امام الفرصه، وان كان في بعض فلتات في يعني في كل الفرق. يعني انت عندك مثلا مودريتش في ريال مدريد داخل على 40 سنه، في نادي الزمالك مثلا في عبد الله السعيد لاعب محوري واساسي وتم 39 سنه، بشيكابالا وهكذا، فكل الفرق بيبقى فيها ممكن طفرات او فيها استثناءات، ممكن لاعب يتقدم بالعمر لكنه يظل قادر على العطاء من خلال التزامه ومن خلال سلوكياته، فاتمنى التوفيق سواء ليحيى عطية الله او لعلي معلول.
شكرا جزيلا أستاذ طارق رضوان على جميع التوضيحات، ونتمنى التوفيق لأصدقائنا المصريين وخصوصا النادي الأهلي اللي كيتضمن لاعبين مغاربة في بقية أطوار الكأس إنتركونتيننتال اللي كتنتظرهم، خصوصا المباراة النهائية النصف النهائية اللي غادي تجمعهم بالفائز بالمنتصر في لقاء باتشوكا المكسيكي والفائز بلاكوبا ليبرتادوريس، يعني الفريق الذي ينتظرهم هو ريال مدريد يوم 18 جنبر المقبل في الدوحة
إن شاء الله. أنا عايز بس عقب تعقيب بسيط، وإحنا في حوارنا نسينا لاعب مؤثر جدا وأثبت جدارته هو من المغرب أيضا، محمود بن تايك الظهير الأيسر للزمالك، لاعب ثبت أقدامه بسرعة، يعني حظى بالإعجاب، بيتقدم من مباراة لأخرى، فبرضه أنا متوقع له نجاح كبير في الدوري المصري.
شكرا جزيلا طارق رضوان على جميع التوضيحات. نو كونتينيو نوتر تور دافريك اي نو زالون الي ا بانغي ان ريبوبليك سنترال افريكان ريتروفي كريستيان دوتا. بونجور كريستيان.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Toujours un plaisir d'avoir avec toi toute l'actualité de la RCA, République Centrafricaine. Et on va essayer de segmenter en trois parties ton intervention. On va commencer déjà par la décision de la CAF. Il n'y aura pas d'homologation du stade de Bangui, donc pas de match à domicile pour la sélection centrafricaine.
Hélas, Amine, hélas, puisque c'est la grande déception. Je suis actuellement à proximité de du complexe sportif Barthélémy Bouganda, qui est fermé au public. Justement, c'était dans l'attente de cette mission. La CAF a pris la décision de maintenir le stade sous sanction et dans sa lettre adressée au secrétaire général de la fédération. La CAF, via Samson Adamou, directeur des tournois et événements, a signifié que le stade de 20 000 places, je cite, ne remplit pas encore les critères requis pour la catégorie 3 et n'est donc pas approuvé. Fin de citation. Puis, la CAF a fait des recommandations pour améliorer les travaux de rénovation et il s'agit, entre autres, pour la fédération de faire appel à une entreprise spécialisée dans la pose et l'entretien des gazons naturels, de collaborer avec des experts en infrastructure footballistique et surtout de recourir à une entreprise spécialisée en éclairage sportif. Voilà où nous en sommes avec cette décision de la CAF, Amine.
Elle suscite aussi une réaction de la part du ministère de tutelle à Bangui.
Oui, tout à fait, Amine, tout à fait. Le ministre n'est pas du tout content. Il n'a pas apprécié la décision de la CAF. Il a adressé une lettre au président de la Fédération centrafricaine qui doit demander à la CAF de dépêcher une mission physique ici à Bangui. Le ministre des Sports promet même de prendre en charge sur le budget national cette mission. Par contre, le ministère des Sports menace d'exclure volontairement la République centrafricaine de la CAF. De son côté, la fédération a aussi écrit à la CAF pour demander une mission formelle afin de lever toute équivoque. Il faut dire, Amine, que cette décision de la CAF est un sérieux revers pour le ministre des Sports qui était convaincu que les travaux réalisés sont impeccables. Mais en réalité, il pensait secrètement satisfaire l'opinion publique en souhaitant que le dernier match de la République centrafricaine contre le Gabon puisse se disputer à Bangui dans l'espoir d'avoir une victoire. Malheureusement, c'est raté.
Et en attendant, il va falloir préparer ces deux confrontations, l'une en Afrique du Sud contre le Lesotho et l'autre sur un terrain à déterminer, le plus proche possible de la République centrafricaine, probablement au Cameroun, avec un nouveau coach puisque Raoul Savoie a été démis de ses fonctions.
Oui, tout à fait. Concernant l'équipe nationale, la fédération a annoncé l'arrivée ce dimanche, 3 novembre, du nouveau coach, Loge Enza Yamissi, qui est en France, et son avion atterrit dans pratiquement une quinzaine de minutes. Le coach Enza Yamissi va ensuite dévoiler la liste des joueurs qui devra affronter, comme tu l'as dit, les deux derniers matchs, le Zoto contre le Zoto et ensuite contre le Gabon. Et pour le dernier match, on vient de l'apprendre, la fédération centrafricaine aurait sollicité qu'il se joue en Afrique du Sud, puisque le match contre le Lesotho va se jouer en Afrique du Sud, ce qui permettra à l'équipe de rester dans la zone et se préparer pour le dernier match contre le Gabon. Mais on attend bien entendu la confirmation. Voilà donc tout où nous en sommes de la situation des Fauves de Bazoubangui, qui, rappelons-le, court toujours derrière une première qualification pour une Coupe d'Afrique des Nations.
Merci infiniment, Christian Dota. C'était court, précis et concis. Ça nous a permis de nous rapprocher de l'actualité de la République centrafricaine. On va bien évidemment continuer à voyager. Si on parle de République centrafricaine, on va parler des équipes qui sont dans notre groupe, puisqu'il y a le Gabon et il y aura probablement un Gabon-Maroc décisif du côté de Franceville le 15 novembre prochain. On va essayer d'avoir dans quelques instants Rodrigue Bécalé pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette équipe du Gabon qui va préparer ce match. Il lui faudrait peut-être un tout petit point pour éviter toute mauvaise surprise, ou encore mieux, gagner face au Lion d'Atlas pour composter un ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que les Centrafricains n'auront pas donc la possibilité de jouer à domicile et que visiblement leur choix se portera sur un terrain en Afrique du Sud pour affronter lors de la dernière journée le Gabon. Mais la condition sine qua non pour pouvoir maintenir leur chance de qualification, c'est battre le Lesotho bien avant. On va essayer bien évidemment de continuer notre tour d'Afrique. Il y a Michel Tobo qui nous attend dans la même région. Il y a aussi d'autres confrères qui sont fin prêts et qui sont bien évidemment disposés. Alors on va pas retrouver Michel Tobo. Voilà, bonjour Michel. On va parler de Chan et de cette confrontation qui va opposer la République démocratique du Congo au Tchad. La RDC qui a déjà gagné ce trophée à deux reprises. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Hein, voilà, c'est toujours avec ce réel plaisir que nous vous retrouvons pour vous donner, on va dire, la synthèse de l'actualité sportive remplie démocratique du Congo. On a clôturé avec la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe, mais là, actualité oblige. Hein. Voilà, on va parler du championnat d'Afrique de nations, les éliminatoires, bien évidemment, avec les Léopards Chan, hein, de la démocratie du Congo, qui ont entamé ce samedi 2 novembre leur rassemblement ici à Kinshasa pour le match du premier tour, hein, face au Sao du Tchad, le sélectionneur national Otis Ngoma, voilà, qui était à Valenciennes, hein, c'est là où il habite, hein, depuis quelques temps maintenant. Il est revenu ici à Kinshasa depuis une semaine et demie. Voilà, il a une équipe ici sur place à Kinshasa qui lui a permis justement voilà de présélectionner 36 joueurs, hein, qui vont justement préparer cette double confrontation. Otis Ngoma, voilà, qui doit se racheter tout simplement parce que il y a deux ans, je vous le disais, il y a quelques temps, hein, l'équipe ne s'est pas très bien comportée. La Pédémocratie du Congo, vainqueur de cette compétition à deux reprises, hein, voilà, a été éliminé au premier tour sans marquer le moindre but. Voilà, ça n'était jamais arrivé que les Léopards participent à ce championnat d'Afrique des Nations sans marquer le moindre but. Donc voilà, il se doit de se racheter. L'opinion publique sportive nationale était pour son limogeage, hein, mais voilà. Il a eu encore, on va dire, de la confiance, voilà, de la part du comité fédéral de la Fédération Congolaise de Football Association qui lui a donné, voilà, une nouvelle chance de se racheter à tout simplement parce que s'il se loupe encore, en tout cas, pour cette édition, voilà, donc ça risquerait quand même d'être assez compliqué pour lui. Donc là, il a une chance inouïe, justement, de prouver de quoi il est capable, hein, l'ancien entraîneur du Daring Club à Motema Pembe. Voilà, là, qui connaît bien le football national, hein, et Otis Ngoma est entré dans l'histoire du football congolais, on peut le dire comme ça, parce que hein, c'était le tout premier entraîneur de la toute première sélection des binationaux congolais qui ont joué face à l'équipe nationale de France. Voilà, c'était à Marbella, voilà, et voilà, c'est là où est parti, c'est comme on appelle chez nous ici, la génération à Marbella. Donc il connaît bien en tout cas le football congolais. Il a l'occasion donc de se racheter lors de cette compétition les 36 joueurs qu'il a eu à avoir, qu'il a justement présélectionné. Mais bon, ils seront pas 36 lors de cette confrontation. Il va certainement réduire la liste à 23 à 24, hein, justement pour lui permettre justement de travailler en toute sérénité. Donc voilà, il est attendu au tournant. Voilà. Pour tenter de la mesure du possible de qualifier cette équipe pour en tout cas ce championnat d'Afrique des Nations que la Ligue des Moitiés du Congo a remporté à deux reprises, la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire et récemment, hein, justement en 2016 avec Florent Ibengué du côté du Rwanda. Donc la Ligue des Moitiés du Congo a, on va dire, un mot à dire lors de cette compétition. On verra de la mesure du possible comment l'entraîneur congolais va se débrouiller pour cette compétition. Voilà, Amine Birouk, hein, ce qu'on avait à vous dire par rapport justement à ce championnat d'Afrique de Nations. On attendra, voilà, la semaine prochaine parce qu'il y a un stage qui sera organisé ici à partir de ce 3 novembre jusque le 9, hein, en attendant justement que, voilà, les deux matchs, hein, en tout cas de la phase préliminaire justement de ces éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations puisse se jouer entre les Léopards de Démocratie du Congo et le Sao du Tchad. Merci infiniment de m'avoir justement accordé ce petit temps, hein, voilà, donc on se retrouvera certainement le samedi prochain avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui m'ont suivi, merci également à tous les confrères qui sont passés avant moi ou qui passeront après moi également. Donc on est ensemble. Merci à vous et bonne journée.
Et on sera toujours ensemble, Michel, et on va rester ensemble, et toujours dans la même région, en Afrique centrale, avec Rodrigue Mekale, comme promis depuis Libreville. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Amine, bonjour
Alors, je pense que c'est l'heure est à la mobilisation générale au Gabon, dans l'optique du match entre le Gabon et le Maroc prévu le 15 novembre prochain, c'est dans une dizaine de jours, avec une mission, comme oui, tu l'as si bien titré dans ton article, gagner, prendre sa revanche et se qualifier.
Effectivement, oui. Et c'est comme tu l'as si bien dit, la mobilisation, le pouvoir public, qui prend ce match comme étant une finale. Et vous savez que les matchs Gabon-Maroc ou Maroc-Gabon, c'est selon, ont toujours été de très beaux matchs. Au-delà un peu de la lourde défaite du dernier match lors de la première journée de cette qualification des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le coach va faire une conférence de presse ce vendredi 8 pour annoncer les joueurs qui devraient en principe faire partie de cette liste-là pour affronter l'équipe du Maroc, mais également la République démocratique du Congo. L'objectif fixé est de remporter d'abord, non seulement chercher à se qualifier face au Maroc, gagner le Maroc, et puis pourquoi pas se venger de la lourde défaite infligée aux Panthères du Gabon lors du dernier match.
Alors justement, quelles sont les prévisions? Est-ce qu'on va reconduire les mêmes joueurs? Parce que je suppose que le sélectionneur a commencé à trouver son groupe. Preuve en est, les deux victoires, l'une au mois de septembre, juste après la déroute face au Maroc contre la République centrafricaine, et l'autre en déplacement au Lesotho, ou face au Lesotho.
Oui, est-ce qu'il va changer? Je ne pense pas. Il a déjà un effectif. Au-delà un peu des plaintes de quelques articles de presse sur le manque de temps de jeu de certains de nos joueurs et qui ne sont véritablement pas dans le championnat UP, mais le coach mis sur le collectif, sur la solidarité du groupe, sur le vivre ensemble, faire venir des nouveaux joueurs ou je ne sais pas, un peu de nouveaux joueurs pour cette confrontation, je ne pense pas.
Du mal à t'entendre, mon cher ami. Est-ce que c'est un problème de connexion, de réseau? Je ne sais pas. Rodrigue?
Oui, vous me suivez?
Tu utilises un Bluetooth ou un haut-parleur ou tu es sur le combiné directement?
Non, haut-parleur, ça doit être un
problème. Alors, évite le haut-parleur, s'il te plaît, pour pouvoir passer le plus normalement. Tu m'entends? Ok, un souci de connexion avec Rodrigue Bécalé. On va se contenter d'une toute dernière question, peut-être dans quelques instants. On va essayer d'améliorer la communication déjà, pour pouvoir permettre à nos auditeurs d'en savoir un peu plus concernant cette confrontation entre le Gabon et le Maroc. Elle est contente pour les animateurs de la CAN 2025, difficile. Rodrigue, alors ma dernière question. Justement, pourquoi Franceville, pourquoi les stades de Libreville ne sont pas prêts? Il y avait quand même deux beaux stades qui ont organisé les CAN en 2012 et 2017. Est-ce que c'est une question d'entretien? Est-ce qu'il y a un plan pour pouvoir réhabiliter ces stades ou pas? Alors justement, j'ai l'impression qu'on a été encore une fois coupé. Alors on va essayer quand même, une toute dernière fois, de trouver Rodrigue Bécalé avant de passer à d'autres confrères et de faire un autre tour. Cette fois-ci, dans la partie ouest du continent. Alors, Rodrigue, tu nous entends?
Oui, je vous écoute.
Alors justement, on parlait de Franceville comme maintenant le stade référence au Gabon, alors qu'il y a deux grands stades dans la capitale qui ont abrité les CAN 2012 et 2017. Je sais que c'est un problème d'entretien, mais est-ce qu'il y a un plan pour pouvoir réhabiliter ces deux stades?
Oui, le chef de l'État, dès sa prise de fonction, a rencontré le président de la Fédération gabonaise de football et à un moment un nouveau ministre de la Jeunesse et du Sport. Ça fait partie des objectifs à signer à ces deux entités, la Fédération et le ministère. Le chef de l'État, dans son discours, souhaite que ces stades soient rétablis, celui d'Oyem, celui de Libreville, que vous connaissez parfaitement, et celui également de Port-Gentil. Tout est à pied d'eux pour que cela puisse se voir et que cela prenne du temps. Malheureusement, il y a une lenteur administrative que vous ne pouvez pas imaginer. Le chef de l'État encore connaît dessus pour sortir à savoir quelles sont les raisons, tout en mettant l'Office national des infrastructures sportives. Nous espérons qu'avec la mise sur pied de cette entité, tout pourra marcher pour le mieux.
Merci infiniment, Rodrigue Bécané, pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine. Tu seras un des premiers à passer, puisqu'il y aura Gabon-Maroc et ce sera l'occasion d'éclairer les deux opinions publiques sur la situation avant la confrontation avec les listes des deux sélectionneurs. Il est 11h24, presque 25. Nous allons nous arrêter pendant une toute petite minute, le temps d'une page de publicité, avant de continuer notre voyage à travers le continent.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه كيستهلك قل وكيدوم اكثر وهادشي كله بنفس ثمن الوقود العادي داكشي علاش الوقود وين بروتيكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيها
مباريات الموسم الرياضي 2024-2025 من البوندسليغا على راديو مارس بشراكة مع مؤسسة دوتش فيلي بايرن ميونخ يسعى لاستعادة اللقب من بايرن ليفركوزن وأندية بوروسيا دورتموند أندراخت فرانكفورت لايبزيش تطمح للمنافسة على الصدارة ننقل لكم كل السبت على الساعة 5:30 أقوى مباريات الأسبوع على راديو مارس بشراكة مع مؤسسة دوتش فيلي
Merci de votre fidélité à Radio Mars. Merci de votre fidélité comme tous les dimanches à Mars Africa. Il est 11h26, 10h26 GMT. Notre voyage nous mènera aujourd'hui et maintenant au Bénin, à Boïkon avec Élisée Nkoupatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Kouka et bienvenue au Bénin.
Et justement, au Bénin, c'est un peu la soupe à la grimace après l'élimination de la sélection locale face au Togo dans le cadre du premier tour préliminaire du CHAN.
Ouais, le Bénin n'a jamais passé ce premier tour et cette première phase depuis déjà près de 3 éditions, et même 4, hein, il faut le dire, puisque lors de la 2e édition, eh bien, le Bénin avait presque réussi, puisque vainqueur 1-0 du Nigeria à domicile, eh bien, le Bénin est allé chercher et quand même, elle devrait quand même aller chercher un bon résultat du côté de Kano, puisque le match a été délocalisé complètement au nord du pays. Et les Nigériens menaient 1-0 jusqu'à la 90e minute, au moment où le Bénin s'est procuré un pénalty, avait trouvé un pénalty, il fallait transformer cela et afin de permettre au Bénin de se qualifier pour sa première édition, sa première en championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, Maman Seibou, qui était justement international béninois, puisqu'il évoluait dans le championnat béninois, mais avait déjà plus de 10 sélections en équipe nationale, donc l'expérimenté Maman Seibou avait raté ce pénalty, donc ce qui a éliminé le Bénin maintenant. C'était au moment où Omar Tobogo gérait les deux sélections, la sélection Fanion plus les Aprimou, la sélection locale. Et après cela, Omar Tobogo a été remplacé justement par Moussa Latondji. Et depuis 3 éditions, eh bien, le technicien béninois, ancien joueur des Dragons de Lomé, le club le plus huppé, le plus quand même le plus titré du Bénin, avec 12 titres de champion et qui a déjà et qui est allé même jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. C'était en 1987, battu entre-temps par Gomaya, futur champion de cette édition-là. Et bien, Moussa Latondji, depuis 3 éditions, n'a jamais réussi à qualifier le Bénin, mais chaque fois éliminé par le Togo. Une fois encore, le Togo elle nous a éliminé. Le Togo, vainqueur 2-0 à l'aller, s'est contenté d'un nul, de un but partout hier du côté d'Abidjan, puisque vous le savez très bien, Amine Birou, que les matchs du Bénin sont délocalisés du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est un stade porte-bonheur, comme le disent souvent les supporters, mais cette fois-ci, ça n'a pas souri aux Béninois qui ont été accrochés à domicile un but partout, synonyme d'élimination. Une fois encore, Moussa Latondji, très critiqué, je vous le dis, très critiqué par la presse sportive, non seulement, mais surtout par les supporters qui demandent au juge sa démission, puisque c'est encore une déception, un échec et une contre-performance. Moussa Latondji, en 3 éditions, n'a jamais réussi à qualifier le Bénin pour le championnat d'Afrique des Nations, c'est une grosse déception.
Une grosse déception qu'il va falloir vite oublier et préparer la grande équipe nationale pour l'autre grande compétition, la plus importante, beaucoup plus importante que le CHAN, qui est la CAN. On attend dans les prochains jours, la liste de guerre notre or pour deux confrontations cruciales, notamment face au Nigeria.
La tête liste ne va pas beaucoup changer puisqu'on connaît depuis peu ta méthode. Et il a souvent dit, puisqu'il continue juste de faire confiance à certains joueurs qui n'ont pas de club, mais aujourd'hui ont eu la chance de se procurer un club, notamment Jodel Dossou, qui vient de signer en National 1, en France, vous imaginez donc. Jodel Dossou a désormais un club, donc cette liste ne va vraisemblablement pas changer, même s'il y a certains joueurs qui sont rentrés au pays, notamment Ahmed Hassan, un ancien joueur qui évoluait dans le championnat égyptien et qui avait trouvé un transfert qui devait l'amener du côté de la Suisse, mais ça a capoté au dernier moment. Donc le joueur a dû rejoindre son club formateur, qui est Lotto Popo. Lotto Popo qui a été champion du Bénin il y a quatre saisons, puisque ça fait trois fois de suite que Coton FC de Ouidah est champion du Bénin. Donc Guerre-Droit ne va pas trop changer sa liste. Et on reprend toujours avec les mêmes, très expérimentés, Steve Monnier, le capitaine. Et on ne peut que citer lui, donc il y aura les Cédric Moutondji, les Olivier Verdon, les Tessy d'Almeida, ces quatre-là qui seront du rendez-vous. Mais deux matchs très importants, très très importants, puisqu'il faudra les gagner pour éviter tout calcul. C'est ce qu'on avait dit lors de ce match, surtout contre le Rwanda Kigali, mais le Bénin n'a pas pu jouer à l'expérience, puisque le Bénin qui menait justement 1-0 à la fin de la première période s'est fait rattraper, puis défoncé par les Rwandais, vous imaginez. C'est une grosse déception et aujourd'hui les tactiques ou bien les schémas tactiques mis en place par Guerre Droit sont critiqués aujourd'hui au Bénin, puisqu'on ne conçoit pas que une équipe comme le Bénin qui a battu le Rwanda 3-0 et trois jours plus tard se fait battre facilement comme ça 1-0 à la 42e minute, et puis à la fin des 90 minutes le Bénin s'incline 2-1. Vous imaginez, c'est une grosse déception, il faudra vite réparer cela. Cela passe par cet exploit contre le Nigeria le 14 novembre. Il faudra battre les Nigériens à Abidjan. Et en tout cas, le Bénin a déjà primé ce signe indien, puisque le Bénin n'avait jamais battu le Nigeria. Eh bien, depuis peu, le Bénin quand même est sorti victorieux de cette face-à-face contre le Nigeria. Donc, il faudra remettre cela le 14 novembre prochain si on veut prendre part à une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, puisque cela fait déjà deux éditions, l'édition camerounaise et puis l'édition ivoirienne. Et donc, ça fait deux éditions que le Bénin n'a plus pris part à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudra battre d'abord le Nigeria, puis après aller battre la Libye, qui, vraisemblablement, verra son match délocalisé dans un pays africain. C'est quand même très difficile, ce objectif-là, puisque tout seul, on s'est mis en difficulté. Donc, il faudra surmonter cette difficulté-là si on veut vraiment faire partie des équipes qui seront qualifiées pour la CAN de 2025. Qui aura lieu en décembre prochain du côté du Maroc.
Merci beaucoup, Elisong Patien. On se retrouve très très bientôt pour continuer à suivre l'actualité au Bénin. Il est 11h32. On va continuer notre petit voyage. On va le poursuivre tranquillement. On va rester à l'ouest du continent tranquillement. Il y a beaucoup d'actualités dans cette partie, dans cette sous-région. Il y a notamment tout ce qui concerne les éliminatoires de la CAN U17 masculine, et c'est le sujet que nous allons aborder avec Bakary Cissé. Bonjour Bakary.
Bonjour.
À Dakar ou en Arabie Saoudite ?
Présentement à Dakar.
Donc présentement à Dakar, donc tu as suivi de très près deux événements qui concernent le Sénégal. Donc, on va commencer par les éliminatoires de la CAN U17. Le Sénégal s'est qualifié en atteignant la finale de la zone UFOA A, qui est la zone d'Afrique de l'Ouest A, justement.
Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Le Sénégal va se coltiner face au Mali demain au stade annexe au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar. Effectivement, il y a eu des circonstances rocambolesques par rapport à ce tournoi, parce que il a été émaillé par la suspension de la Guinée et Conakry.
Trafic d'âge.
Allô?
Pour trafic d'âge, c'est ça, Bakary?
Voilà, pour trafic, effectivement, pour trafic d'âge. Donc, les Guinéens n'ont pas du tout, n'ont pas terminé de ruminer leur colère, mais il faut dire quelque part qu'ils ont eu tort sur toute la ligne parce que les Guinéens sont coutumiers des faits, il faut le rappeler, et je pense que cela dévoile totalement et complètement cette compétition. Le Sénégal qui aura en face de lui le Mali n'est pas une équipe à présenter parce que les Maliens, tout le monde sait que leur base c'est le football de jeunes, et je pense bien que les Sénégalais auront du pain sur la planche et il va falloir qu'ils sortent tout de leur trip pour quand même avoir gain de cause, parce que ça ne sera pas une partie de plaisir. C'est vrai que les deux pays sont qualifiés à la Coupe d'Afrique U17, mais quand même, on a besoin d'un champion de la zone et nous espérons que ce sera le Sénégal.
D'ailleurs, le Sénégal continuera à défendre son titre, ouais, puisqu'il est le tenant du titre après sa victoire à Alger contre le Maroc de 2-1. On parlera également de beach soccer, de football de plage. Le Sénégal avait été malmené en début de compétition lors de cette CAN qui s'est déroulée il y a quelques jours en Égypte, mais lorsqu'on est arrivé dans le Money Time, dans les matchs qui comptent, le Sénégal a tenu son rang. Il est à nouveau sacré champion d'Afrique devant la Mauritanie.
Effectivement, on va continuer à planer sur cette compétition, sur cette discipline, parce que vous savez, moi je disais à un de mes anciens, de nos doyens de journalistes africains, est-ce que dans les autres pays il n'y a pas la plage? Il me dit si, pourtant il y a la plage. Le problème c'est qu'au Sénégal on ne fait que jouer au beach soccer, et le Sénégal tant bien que mal essaie de s'organiser et d'organiser des compétitions nationales dans tout le territoire du pays, ce qui veut dire quelque part qu'aujourd'hui, ce titre n'a pas été usurpé. C'est vrai que la sortie initiale face à la Mauritanie a été complètement... les Lions étaient complètement méconnaissables parce qu'ils ont été malmenés par les Murabutines qu'ils avaient pour remporter sur le score de 5-2. Mais il faut dire que quelque part, effectivement, le Sénégal a montré à la Mauritanie qu'elle reste cet élève qui n'a pas encore appris ses leçons, parce que vous avez vu, au Money Time, on est parvenu à remporter sur le score de 3-1. Ça veut dire quoi? On ne va jamais prendre la Mauritanie dans la spirale de la folie meurtrière, mais quand même que les Mauritaniens comprennent qu'ils ont encore du chemin à faire. Mais il faut quand même les tirer du chapeau parce qu'ils feront partie de ces deux représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de beach soccer.
Dernière question, on va parler un peu de Sadio Mané et de ce classique du football saoudien qui a eu lieu vendredi entre Nasr et Lilal. Et visiblement, Nasr a du mal face à son rival. Il n'arrive toujours pas à battre Lilal depuis 2 ans.
Oui, il faut dire que j'ai eu la chance de discuter avec Khalilou Koulibaly 2 jours avant le match. Il me disait, écoute grand frère, je pense que Al Hilal sur le plan individuel, Al Nassr plutôt, sur le plan individuel, il n'y a pas photo. Ils ont des joueurs qui ont des noms ronflants. Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons une équipe et nous jouons en équipe. Et je pense que c'est cette équipe-là qui a prouvé encore une fois sur la pelouse du stade d'Al Nassr qu'il faut compter sur le collectif. Parce que moi, je l'ai dit, quand j'ai vu que les rangs n'étaient pas très très bien serrés du côté de Al Nassr, j'avais compris que ça pourrait se jouer sur un coup de dé, et Al Hilal a prouvé encore une fois qu'il faut compter sur elle, parce que c'est une équipe très très compétitive, même si elle a du mal à remporter la Ligue européenne asiatique, mais quand même en Arabie Saoudite, Al Hilal continue à planer sur le championnat. Oui, ils sont rentrés avec le point du nul et c'était un très bon point.
Merci infiniment Bakary Cissé. Mes salutations les plus sincères à nos amis du Sénégal et notamment Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, tous ceux qui nous suivent et tous ceux que nous aimons. 11h38, on va continuer notre voyage. On a parlé du FOA, de U17, on va bien évidemment retrouver Drissa Niono puisque le Mali est également convié à cette finale de la sous-région, et le Mali également qualifié pour la CAN U17. Bonjour Drissa.
Bonjour Amine Birouk, bonjour à toutes et à tous.
Alors, belle qualification des Maliens qui seront présents lors de la prochaine CAN U17.
Exactement, c'est une nouvelle génération qui est née, on va dire, du côté de Dakar, même si elle a commencé sa préparation ici à Bamako. Une génération qu'on compare déjà à celle qui vient de perdre lors de l'UFOA des moins de 20 ans dans la même ville. Ça c'était plutôt du côté du Libéria. En tout cas, après la génération de Soumaïla Koulibaly, que vous avez connu d'ailleurs, qui est passé un temps par le Maroc, qui a fait sa préparation au Maroc, qui est parti à la CAN, éliminé en demi-finale de la compétition par le Maroc. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle génération qui a été montée et mise sur pied par Adama Diéfla Diallo, une nouvelle génération malienne, cette fois-ci, qui a un autre talent. Il s'agit de Sidou Dembélé. Ils ont commencé leur compétition timidement, 1-0 victoire contre le Libéria, ensuite victoire à l'arraché, 1-0 contre la Sierra Leone. Ils ont battu 4-0 la Mauritanie et ils étaient attendus face à la Gambie, qui était l'équipe qui a terminé deuxième du groupe A derrière le Sénégal. En tout cas, c'était une affiche très attendue dans la mesure où c'était deux formations qui marquaient énormément de buts. Et finalement, il y a eu des buts et le Mali qui n'avait pas encaissé lors des trois premières sorties va finalement encaisser un but et sera même devancé par la Gambie à quelques temps. Donc, avec du caractère et du coaching, les jeunes maliens sont parvenus en tout cas à renverser la vapeur et finalement s'imposer 3-2. Et un homme s'est distingué, s'est illustré. Il s'agit de Bakary Simpara, qui avait marqué son premier but contre la Mauritanie et il s'est offert un triplé pour permettre à cette génération de se qualifier et pour la finale et pour la CAN, dont le pays n'a pas encore été désigné par la Confédération africaine de football.
On ne connaît ni les organisateurs de la CAN U17 ni ceux de la CAN U20. Ça, ce sont les paradoxes. Exactement. Ce sont les paradoxes de notre chère Confédération africaine de football. On va bien évidemment aussi penser aux compétitions des clubs. Elles reprennent à partir du 27 novembre. C'est dans moins d'un mois. Avec deux clubs maliens, l'un dans chaque compétition, à savoir Djoliba et le Stade.
Exactement. Mais jusqu'à présent, les deux formations, quand même, n'ont pas encore une journée de championnat dans leurs jambes. En tout cas, ils se préparent comme il faut. D'abord, le Djoliba AC qui va représenter le Mali en Ligue des Champions. En tout cas, ils avaient monté un programme et pour finalement avoir quelques matchs avant le début du championnat pour se préparer, démarrer le championnat. Ensuite, se préparer avec le championnat en attendant également cette première sortie du côté de l'Espérance de Tunis. Malheureusement, le coup d'envoi de la première journée du championnat qui était attendu depuis... On va dire le mois d'octobre, au début octobre, n'a pas finalement lieu. Il y a un autre calendrier qui avait été désigné pour jouer finalement en fin octobre. Mmh. Ce calendrier également a été annulé. Cette fois-ci, la nouvelle information qu'on nous a donnée, c'est qu'il n'y a même pas encore de date précise, mais la fédération quand même pense à mi-novembre pour débuter le championnat. Entre-temps, du côté du Maroc, la Renaissance Berkane a débuté. Du côté de la Tunisie, l'Espérance de Tunisie a débuté. Et le Stade Malien de Bamako, en tout cas, s'est quand même trouvé un partenaire. Il s'agit de l'AS Héral de Bamako avec lequel il se prépare. En tout cas, ils avaient effectué un premier match sur le terrain de l'AS Héral il y a une semaine. Le Stade l'avait emporté 1-0. Et hier, ils s'étaient affrontés sur le terrain cette fois-ci d'entraînement du Stade Malien de Bamako. Ils se sont quittés bons amis avec un match nul, un but partout. En tout cas, c'est ce que le Djoliba aussi fait de son côté, en affrontant surtout d'abord les clubs de première division. Et hier, du côté du complexe sportif Karunga Keita-Keke, donc le Djoliba était également opposé aux 11 créateurs de Niarela. Là également, match nul, un but partout. En tout cas, selon les informations qu'on a reçues, en tout cas, des deux formations, comment est-ce qu'ils comptent, avec ces matchs amicaux, se préparer pour être prêts pour affronter leur adversaire en compétition africaine, les clubs? Ils disent en tout cas que c'est difficile dans la mesure où les deux coachs avaient établi un calendrier sur lequel ils s'étaient basés avant le début du championnat et maintenant,
bien évidemment, foiré, bien évidemment.
Et ils avancent comme ça.
Et il faudrait que ça avance plutôt qu'on continue à tâtonner du côté du Mali. Merci beaucoup Drissa Niono pour toutes ces explications. On se retrouve dimanche prochain. 11h43, on va continuer notre voyage. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va rester en Afrique de l'Ouest, on va aller à Abidjan voir Elisabeth Gaulé dans quelques instants. Elisabeth Gaulé qui va se pencher à répondre à une seule, unique question. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été éliminée dans les éliminatoires de la CAN U20? Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine.
Alors on va parler d'un fiasco du football ivoirien, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire des moins de 20 ans qui ne sera pas présente à la prochaine CAN.
Effectivement, bonjour à mes auditeurs, c'est, C'est dommage que la Côte d'Ivoire ne puisse pas participer à ces échéances, à cette joute continentale. On sait qu'ils se sont préparés. Maintenant, à quoi est due cette contre-performance? C'est vrai que les éléphants sont montés sur la troisième marche du podium, mais ce n'était vraiment pas le résultat attendu parce qu'on sait que Daoud Lassina et ses poulets avaient quand même fière allure avant de partir à cette compétition. Ils ont eu des rencontres amicales où ils se sont vraiment bien illustrés et autres. Bon. Mais il faut dire que ce n'était vraiment pas suffisant pour que la Côte d'Ivoire puisse aller arracher la qualification à la phase finale de la CAN U20 à Lomé. Ce n'était vraiment pas évident dans la mesure où les adversaires pendant les préparations n'étaient vraiment pas de taille, ils n'ont pas eu des compétitions internationales, des équipes internationales, des homologues au même niveau qu'eux et autres. Donc, c'était vraiment, vraiment difficile, en dépit même de la volonté, de la détermination de ces garçons à vouloir participer à cette phase finale de la CAN des U20. C'est vraiment dommage parce qu'on sait le travail qu'a Daoud Lassina. On sait que c'est quand même l'un des meilleurs entraîneurs en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, il n'a pu atteindre l'objectif assigné qui était d'arracher une place qualificative.
En tout cas, on espère que le sort sera différent pour les autres catégories du football ivoirien. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette intervention courte, précise et concise. Il est 11h45. On va continuer notre voyage. On a encore quelques escales à proposer à nos amis sur le continent. On va aller bien évidemment encore en Tunisie, en Guinée, on espère aller au Cameroun, au Burkina Faso, il y a le tour du Faso avec des Marocains qui sont en train de briller du côté de Ouagadougou. Donc on essaiera dans ces 14 minutes de parler de beaucoup de choses, à commencer par la Guinée Conakry avec notre ami Chérif Alio. Bonjour Chérif.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Et on est en plein crise, en plein marasme du côté de la Guinée avec un président de fédération visé par une enquête pour trucage de match.
Ah oui, le président Sampil en ce moment traverse un autre trouble avec la Fédération guinéenne de football. Hein, plusieurs problèmes sont sur la table en ce moment du président de la Fédération guinéenne de football. Vous l'avez dit, trucage de matchs. Il y a aussi les réunions du commerce qui ne se tiennent plus. Et tout récemment, il y a le principal sponsor qui a décidé de claquer la porte tout simplement parce que la chose ne se passe pas bien. Et donc voilà, ça fait de trop pour le président de la Fédération guinéenne de football qui est aujourd'hui contesté par les membres du commerce qui d'ailleurs demandent son départ. Tu pourras croire que dans la semaine ou mois à venir, on pourra assister à une nouvelle crise au sein de la Fédération guinéenne de football.
Nouvelle crise qu'il va falloir peut-être résoudre avec camoufler avec au moins une qualification pour la CAN. Là, ce sera la bataille la plus dure. Ce sera là, dans une dizaine de jours contre la RDC. La RDC qui a déjà préparé sa liste. Et à quoi peut-on s'attendre du côté guinéen de la part de Michel Dussuyer? Est-ce qu'il y aura des changements?
On entend tous, bien évidemment, la liste du Michel. Non, visiblement, il partira avec les mêmes hommes que lors des deux derniers matchs, parce que l'équipe a donné entière satisfaction. Deux victoires, pour 7 buts inscrits. Il n'y aura pas grand chamboulement dans les rangs du Sili de Guinée. Comme on le dit souvent, on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, il partira forcément avec ses hommes de base pour essayer d'aller arracher une victoire contre la RDC et finir en beauté contre la Tanzanie. Mais attention, ça sera pas de beurre à couper. Hein. C'est deux matchs assez cruciaux qui attendent le Sili de Guinée. Il va donc falloir une bataille très 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 dur, mais tout ça arrive dans un contexte un peu particulier avec la fédération vraiment qui, comme je l'ai dit, traverse une période assez compliquée pour l'instant, mais on espère que les joueurs seront faire fi de ça pour essayer en tout cas de rendre fier le peuple guinéen.
Merci infiniment. À très bientôt, Chérif Alio, qui était en déplacement dans une île au large de la Guinée et qui nous a tout de même répondu. Il est 11h48. On continue à voyager, on continue à sillonner notre continent. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a essayé de faire les interventions les plus courtes possibles pour essayer de paxer le maximum d'infos et d'échos, de réactions par rapport à ce qui se passe sur notre continent. Il y a beaucoup de choses dans différentes disciplines, y compris en cyclisme où il y a le Tour du Faso. Bonjour Jean-Modeste Ouedraogo.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mas.
Et le Tour du Faso continue à respecter la tradition et pour l'instant, c'est un Marocain qui porte le maillot jaune.
Oui, Kouragi, c'est lui, celui-là même qui a remporté, donc, enfin, il a remporté, c'est trop dit, mais il a su ses épaules, le maillot jaune. Et je pense que le maillot jaune ne va pas le quitter jusqu'à l'apothéose aujourd'hui sur le boulevard Thomas Sankara. Ce matin même, les cyclistes sont à Ouagadougou pour voilà, le sprint final donc, de cette édition du Tour du Faso. Les Marocains, une très belle équipe, une équipe qui a montré vraiment de la qualité, une équipe qui a su se mettre à la hauteur pour dominer ce Tour du Faso. Encore une fois, les Marocains sont des habitués du Tour du Faso et il faut le dire, hein, en présence d'une équipe de la Russie, en présence également du Cameroun, en présence du Burkina Faso et bien entendu beaucoup d'autres pays, dont la Belgique. Mais il faut quand même reconnaître que ce Tour du Faso a un peu baissé le niveau au niveau donc du Burkina, puisque le meilleur cycliste burkinabé n'a pas pu prendre part donc à ce Tour du Faso, puisqu'il est tout simplement voilà, convalescent. Voilà, et donc il n'a pas pu prendre part à ce Tour du Faso. Il s'agit de Paul Domon, le maillot jaune de 2023, qui n'est pas là. Et donc l'équipe du Burkina est bien entendu diminuée, mais cela n'enlève en rien à la qualité donc de l'équipe marocaine, qui est très très en forme et qui est en train de dicter sa loi sur ce Tour du Faso.
Très bien, merci Jean Modeste pour cette synthèse du Tour du Faso. On espère que Mohsine Kouragi parviendra à garder le maillot jaune à l'issue de la dernière étape qui se déroule aujourd'hui. Il est 11h50, on a encore un voyage au nord du continent à vous proposer avec Ahmed Adela. On va parler un peu de cette grave blessure du gardien Moaïs Hassan et puis peut-être d'une rumeur qui mènerait Marc Willemots à la tête de la sélection tunisienne. Info ou intox, c'est ce que nous voudrions savoir de la bouche de Ahmed Adela. S'il est prêt, s'il est disponible. On essaie bien évidemment. Ahmed Adela, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Et on s'inquiète pour l'état du gardien international tunisien Moaïs Hassan, gravement blessé lors d'un match du championnat tunisien.
Exactement, c'est une grave blessure pour ceux qui nous écoutent. C'est la même blessure qu'a eu Djibril Cissé à un moment donné avec son équipe nationale, l'équipe de France. C'est aussi la même blessure que Sabr Rakhlif, l'ancien attaquant et capitaine du club africain et international tunisien. C'est une fracture au tibia péroné. Donc ça va prendre, il a été opéré hier, et ça va prendre entre 6 et 8 mois d'absence et de convalescence.
C'est grave. Et puis l'autre info que je voudrais quand même traiter avec toi, elle mènerait à Marc Willemots. Serait-il susceptible de succéder à Fawzi Banzarti après les éliminatoires de la CAN? Info ou intox? Marc Willemots.
Non. Apparemment, on se dirige vers la nomination d'un entraîneur tunisien. Faute du budget, apparemment, les discussions se poursuivent entre le ministère de sport et le comité de normalisation. Il n'y a pas que ça. On a déjà évoqué ça. Il y a les deux prochains matchs. Après, on n'aura plus rien jusqu'au CHAN et jusqu'à éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on se dirige vers la nomination d'un cadre tunisien. On est loin d'avoir des noms. Il y a des noms de gauche à droite, mais il n'y a absolument rien. Par contre, Marc Willemots, il a été, par contre, proposé à l'Espérance sportive du Tunis, qui est toujours à la recherche de l'entraîneur. Mais c'est une piste qui a été probablement, on n'a pas encore la confirmation, mais je le dis probablement, qui a été rapidement abandonnée.
Merci Ahmed Adela. C'était vite fait et bien fait. 11h53. Il nous reste une dernière escale. On va aller aux États-Unis retrouver notre ami William Tchango pour parler un peu du Cameroun, de cette sélection camerounaise qui n'en finit pas de connaître des problèmes souvent extra-sportifs. Ils n'ont rien à voir avec la réalité du terrain puisque le Cameroun est qualifié pour la prochaine CAN. Bonjour William Tchango.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs.
Tu es au pays ou aux États-Unis?
Non, je suis aux États-Unis.
De quel côté? De quel côté? Au moins, on puisse situer le décalage horaire.
Ouais, je suis du côté de Maryland à ce moment.
Ouais, bah, donc c'est 5 à 6 heures.
À 5 à 6 heures.
5 à 6 heures. Alors, nouvelle polémique avec la liste de Marc Brice. Que s'est-il encore passé? On n'a pas l'impression qu'au Cameroun, on préfère les gestions de crise saines, tranquilles. Au Cameroun, on préfère les tempêtes.
Absolument. Ça se voit bien que toutes les conditions sont réunies pour que la sérénité attendue, espérée, et ne soit toujours pas au rendez-vous au mois de novembre lors des prochaines sorties du Cameroun contre le Zimbabwe lors des deux prochaines sorties du Cameroun. Donc, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes...
Namibie-Zimbabwe,
merci pour le rappel. C'est toujours les mêmes histoires avec les listes qui sont bloquées au niveau de la Fédération Camerounaise de football qui, on ne sait pourquoi, refuse de les rendre publiques. On croyait qu'avec la nomination d'une liste consensuelle le mois dernier avant les sorties, la double sortie contre le Kenya, que tout allait être réglé à ce niveau.
Mais alors on parle de liste modifiée, de présélection qui n'a pas été publiée et de liste qui aurait été modifiée. Vrai ou faux?
Ben, c'est toujours la crainte, parce que depuis l'arrivée de Brice, la fédération a toujours essayé d'intervenir dans le choix des joueurs, mais sauf que le coach qui est venu, qui a affiché une certaine personnalité dès le départ, a toujours tout fait pour l'empêcher, parce que si les informations sortent, c'est simplement parce que le coach et son entourage veulent se mettre en garde l'opinion sur la possibilité au niveau de la fédération de modifier sa liste de présélection, parce qu'il ne comprend pas effectivement comment une liste élargie, une première liste, n'a pas pu être rendue publique comme dans les usages par le passé. Donc, il y a toujours cette crainte-là, et ce qui s'est passé avec son adjoint lors des précédentes sorties, où la fédération prenait toujours le soin de l'écarter de la liste des membres du staff devant s'asseoir sur le banc de touche, montre très bien que il y a une certaine hypocrisie, il y a une certaine mesquinerie dans la manière la FIDCAFOOT de collaborer avec cet entraîneur, malgré le fait qu'on ait cru il y a un mois que les armes étaient rangées. Donc ça va toujours être comme ça, parce qu'on connaît comment fonctionne cette administration sous Samuel Eto'o. On connaît comment Samuel Eto'o fonctionne. Il
se nourrit du conflit.
Il range rarement ses armes.
La vie. Alors justement, parce qu'on est un peu pris par le temps, je te remercie infiniment, William. Je voudrais juste finir sur cette remarque. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille au Cameroun. Elle a fait quoi faute, surtout avec Samuel Eto'o. Merci William Tchanko. Vous avez été tous parfaits, y compris notre ami Bono qui était à la réalisation. On arrive au terme de l'émission. Vous étiez 12 aujourd'hui à passer. C'est un record. Ça fait plaisir. Et j'espère que vous serez tout autant à vous manifester la semaine prochaine, au moment où nous parlerons des listes officielles pour les éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Merci de votre fidélité. Ainsi se conclut Mars Africa. Je vous laisse dans quelques instants avec Sarah Moujahid et l'émission consacrée au football féminin Rekiyat. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.